Réunion de lecture. Bouillon de lecture, vous avez rendez-vous tout l'été avec le vestibule des causes perdues de Manon Moreau aux éditions Montalent.
Et lu alternativement par Catherine
et Hervé.
Qui vous raconte, l'un après l'autre, les aventures de Marat, Robert et tous les autres.
Et tous
rappelez-vous,
les autres.
Arpad.
Bruce.
Sept lieux.
Le Breton.
Alors il y en a qui ont quitté l'aventure aussi.
Oui, c'est vrai.
Bien. Mais ça, on le saura en écoutant la
Exactement.
Suite.
Les blessures des jours de pluie. La journée avait été pluvieuse. Pluvieux les premiers pas du matin, abrupte la sortie de Cahors, plus loin dans un village des chiens avaient aboyé à son passage, puis cette longue forêt trop sombre à la fin de l'étape. Aujourd'hui, il devait faire halte à Las Cabanes, encore quelques kilomètres, rien de grave. Mais cette pluie n'en finit pas, le chemin est boueux, le Breton hâte le pas. C'est pas la pluie qu'il craint, ni même la boue. Non, ce qu'il craint, ce sont les interrogations et les doutes qui guettent, prêts à l'assaillir à la moindre fatigue, qui remettent tout en question, en quelques morsures mauvaises. Il faut arriver au refuge, retrouver les visages familiers de ses compagnons de route. Les premières semaines, il ne s'était pas tellement mêlé aux autres pèlerins, il n'était pas là pour faire des politesses, leur gaieté le soir à l'étape, leur satisfaction l'énervait. Lui n'aspirait qu'à se recueillir, à lire en paix, et il parlait, cuisinait, se racontait, posait des questions, et lui ne voulait rien dire. Leur avait lâché qu'il venait de Saint-Malo, ce qui lui avait valu le surnom de « Le Breton ». Les autres avaient eu l'impression de l'intégrer un peu à leur groupe, malgré tout, et l'avaient laissé en paix. Bien sûr, on le regardait avec curiosité quand il passait ses soirées plongées dans les vieux livres d'or où les pèlerins d'avant avaient laissé ses petits mots, des dessins, leurs impressions, leurs émotions du jour, leur épuisement. Il avait dû lancer quelques regards peu avenants pour tenir les questions à distance. Puis les autres s'étaient lassés, avaient admis qu'il était le Breton et qu'on n'en saurait pas plus. Lui-même ne posait pas de questions. Il n'avait pas besoin. Par exemple, avec cette femme, Clotilde, il avait deviné pourquoi elle était là, dès leur première rencontre. Il n'avait pas eu besoin d'explication. Au fil des jours, il s'était un peu rapproché de la bande des Brésiliens. Marat, Clotilde, Robert, tout cela. Ils s'arrêtaient aux mêmes étapes, dans les mêmes villes depuis le début. Fallait bien vivre ensemble. À la sortie de la forêt, dévaler une pente, suivre encore un moment le chemin à travers champs, la pluie battante ne laisse aucun répit avant de rentrer dans Las Cabanes. Le gîte est adossé à l'église. Le Breton ôte ses chaussures. Il s'agit de ne pas salir l'entrée. Il secoue sa cape de pluie sur le pas de la porte, entrepose son sac et son bâton dans un coin. Sur un grand tableau, les pèlerins sont priés d'écrire leur nom par ordre d'arrivée. Il est le premier. S'installe à l'étage, dans une chambre blanche, s'étend sur le lit et écoute le silence. Quand il émerge, une petite heure plus tard, son pied le fait souffrir, une douleur aiguë, une douleur de peau. Se penche sur le problème. Ampoule au talon. L'ampoule des jours de pluie. Il n'a pas senti venir et maintenant elle est là. Les jours de pluie. Et voilà qu'il a froid. La douche brûlante le réchauffe, le gîte est toujours désert. Le Breton comprend qu'il a sérieusement accéléré le pas, en effet, dans la forêt. Souvent, il arrive parmi les premiers, mais est suivi de près par Enrique et Sofia, puis Robert. Il faut dire qu'il marche vite et sec, tendu vers son but, vers la consolation du soir qu'il attend dans tous les refuges où il fait halte. Il bourre ses chaussures de papier journal et les appuie sous un radiateur. Sa consolation. Le Breton explore le gîte dans le noir avant de trouver la lumière. Dehors, le jour tombe avec la pluie. Dans l'immense salle voûtée en pierre de taille, il cherche le livre d'or. Pas sur la grande table en bois, ni sur la commode où traînent pourtant les livres abandonnés là par leur propriétaire fatigué de les porter. Pas non plus dans l'entrée, sur le bar. Et pas d'hospitalero pour lui dire où trouver le registre au moins. Pose sur la table son cahier bleu, seule petite tache de couleur dans ce jour gris. Entend la porte d'entrée s'ouvrir et ne peut réprimer un sourire. Toute compagnie sera bienvenue. Robert est trempé jusqu'aux os. Il a la mine patibulaire, mais sa présence réchauffe déjà.
Ah, le breton! Quel temps! Toi, au moins, t'es pas dépaysé, hein? Quelle misère! Il ôte sa carapace de pluie, inondant le sol de l'entrée. Misère! Le breton attrape la cape de Robert, la roule en boule et la secoue par la porte. L'autre se déchausse en maugréant. J'espère qu'il y a du chauffage ici. Ouais, les radiateurs sont allumés, ça sèche vite. Super! T'es tout seul? Oui. Tu m'étonnes. Faut être des sacrés marlous pour marcher par un temps pareil. À part toi, moi et cet lieu, je vois pas. Hein. Mais les autres? Voilà qui se fait du souci pour les autres, eh ben. Enrique et Sofia sont restés à Cahors. On est partis ensemble et quand ils ont vu la pluie, surtout que c'est de la pluie qui mouille, hein, ils sont entrés dans un café et m'est avis qu'ils y sont encore. Hein. Le breton sent un froid lui courir le cœur, comme une déception. Et les autres? Bah, je sais pas, mais à mon avis, on sera pas nombreux ce soir. Y a pas d'hospitalero? Non, je l'ai pas vu. Dis donc, il a intérêt à pointer le bout de son nez, celui-là, hein, parce que je le veux, mon cello. Je l'ai mérité. Le breton sourit. C'est vrai, il leur fallait leur cello. Il l'avait fichtrement mérité, celui-là. Les chambres, c'est là-haut? Le breton opine. Je t'accompagne pas, hein, j'ai une salle en poule. Robert fait la grimace, l'air entendu. La blessure des jours de pluie. Ah, les jours de pluie, ça ne pardonne pas. Sous sa douche, Robert inspecta ses propres pieds, mais n'y trouva rien de suspect. Pensez quand même, les jours de pluie, une vraie saloperie. T'es pressé d'arriver, alors tu marches trop vite, tu forces, t'as pas soif parce qu'il y a de la flotte partout autour, ça suffit bien, alors tu bois pas, tu ne fais pas de halte, sinon tu te noies, et en plus, les pieds humides frottent dans les chaussettes. À la fin de la journée, bingo, t'es bon pour la casse. Lui n'avait pas trop à se plaindre, son seul problème de panard, c'était son tendon qui avait fait du grabuge avant Saint-Côme. Et c'est grâce à ça qu'il avait rencontré Flora, alors... Elle a à croire que même les bobos apportaient du bon sur ce chemin. Quand il rejoignit le breton dans la salle du rez-de-chaussée, celui-ci était plongé dans la lecture de son cahier bleu. « Tu as trouvé le registre ?» Robert tenait à ce rituel, tous les soirs, inscrire son nom dans le registre du refuge. La date, oui. Et sa destination, Saint-Jacques-de-Compostelle. L'écrire tous les soirs, c'était s'en rapprocher encore un peu. Les quelques millimètres sur le papier s'ajoutaient aux kilomètres parcourus sur le chemin dans la journée. Et puis, écrire son nom dans le registre, c'était comme une petite trace laissée derrière lui. La preuve que dans sa vie, il avait fait cette route. Et même si demain, ses pieds l'a lâché, il était venu jusque-là. C'était important. Et aussi, se disait aussi que si un jour l'idée lui prenait à Ninon dans des années de faire le pèlerinage, parce qu'il lui raconterait ce voyage spécial, et peut-être que ça lui donnerait envie à la petite, et quand elle sera plus grande, de prendre l'air, eh bien, elle serait fière de trouver le nom de son grand-père à chaque étape. Depuis quelques jours, il avait une autre idée en tête. Si Flora voulait le retrouver, il fallait bien qu'elle sache par où il était passé et combien de jours d'avance il avait. Il était donc fondamental d'inscrire son nom dans le registre du refuge de Las Cabanes et aussi de recueillir le tampon de l'étape, le précieux cello, sur sa crédentiale, belle comme une carte au trésor. Alors Robert, à son tour, chercha partout dans le refuge le fameux registre, en vain. Il faisait nuit à présent. Quelques pèlerins étaient arrivés, un couple d'Allemands très discrets et trois bourguignons qu'on ne connaissait que de vue. Robert préparait une sauce de tomates fraîches, faite minute, pour améliorer les pâtes cuites par le breton. La cuisine embaumée. Le breton venait de refermer son cahier bleu. Occupé au-dessus de sa casserole, Robert dit « Le breton, qu'est-ce qu'il y a dans ce cahier bleu que tu trimbales? T'écris même pas dedans. » En d'autres temps, le breton se serait fermé, aurait ignoré le curieux. Mais ce soir, Robert lui avait épargné une soirée solitaire, éclairé le refuge de ses expressions fleuries, et maintenant il cuisinait pour eux deux. Alors il haussa les épaules et entreprit de dresser la table. Une assiette dans chaque main, dit juste « C'est un peu comme un guide, un journal de bord. » Robert demanda « T'as rien contre l'ail ?» Puis prit des nouvelles de l'ampoule de pluie de son compagnon. Le lendemain, il serait plus prudent de faire une petite étape. Mais Robert savait que ses conseils étaient vains. Jamais le breton n'avait dévié de son plan de marche. Il savait à l'avance où s'arrêter chaque soir, et ce, jusqu'à Santiago. Il n'en démordrait pas. Demain, ce serait Lauzerte, puis Moissac. Robert dit qu'en ce qui le concerne, il prendrait peut-être un jour de repos à Moissac. Il passait à table quand la porte d'entrée claqua. Une voix de ténor demanda « Oh, qu'est-ce qui sent bon ! Y aurait-il un chef étoilé parmi les pèlerins que m'a apporté ce déluge ?» Personne n'osait piper mot. Robert dit tout bas au Breton. Ça, c'est l'hospitalero. C'était bien lui, sauf qu'en plus d'être hospitalero, il était aussi curé. Il salua à la cantonade et prit place sur le banc face à Robert à côté du Breton. On lui servit une assiette de pâtes à la tomate qu'il accepta avec appétit. « C'est vous le gourmet ? Bah, je fais avec ce que j'ai. Ah, je suis sûr que le chemin vous donne ce dont vous avez besoin. » « C'est un peu vrai. En tout cas, aujourd'hui, il nous a donné de la pluie, le chemin. »« Et à moi, une sacrée ampoule, » ajouta le Breton. « Vous me montrerez ça, » dit le curé. « Vous tombez à pic, j'avais une faim de loup. » « Vous aussi, vous tombez à pic, mon père. C'est vous qui avez le registre, le livre d'or et le cello du refuge ?» L'homme opina. « Je les ai apportés. » Après le repas, les pèlerins dictèrent leur nom, leur origine et leur destination au curé qui les inscrivit dans le registre dont ils traçaient les lignes au fur et à mesure, tamponna chacune des crédentiales qu'on lui tendait comme un bien précieux. Puis, quand le rituel fut terminé, dit au Breton « Suivez-moi, on va regarder cette ampoule ». Le Breton n'avait pas trop envie de se laisser triturer son ampoule, mais le curé l'attendait au bas de l'escalier, impossible de se dérober. Il le suivit à l'étage, veillant à atténuer sa boiterie. L'hôte le fit asseoir sur son lit, inspecta le pied blessé. « Attention au tendon d'Achille, je le trouve bien raide. Puis, ne touchez pas à votre ampoule, ne la percez pas, laissez faire. Buvez beaucoup d'eau, elle disparaîtra bientôt. » Le Breton remercia et s'apprêtait à partir quand le curé dit « Mettez vos pieds dans cette bassine. » Pas à l'aise, le Breton n'osa protester. « C'est de l'eau salée, c'est excellent pour les pieds. Restez là un moment, puis il sortit. » Le Breton était seul dans une chambre vide, les pieds dans une bassine d'eau. La pesanteur particulière de l'eau chargée de sel, le sel qui attaque doucement la peau, comme sur la plage du Sillon, les jours d'été où l'on se laissait dériver au soleil, et même l'hiver, le sable qui donnait l'onglet aux pieds nus. Ce qu'il préférait, la pêche aux coquillages à marée basse, la pêche miraculeuse de l'année de ses 12 ans, les grandes marées quand la mer s'en va si loin qu'on croit qu'elle ne va jamais revenir. Ces angoisses d'enfant face à la plage vide, on n'en voit pas la fin et la mer qui ne revient pas. L'angoisse face à la mer fugueuse ne l'avait jamais quittée. Plus tard, dans son adolescence, il avait pris l'habitude de se lever la nuit, faire sa ronde sur le sillon pour s'assurer que tout était rentré dans l'ordre. Il saluait les lourds troncs d'arbres plantés dans le sable, brise-lames qu'il avait escaladés 1000 fois sous les regards horrifiés et admiratifs des filles venues applaudir ses exploits. Et puis ces derniers mois, à marcher seul sur la plage, à se laisser surprendre par la marée montante, de voir hâter le pas et longer la jetée, le cœur battant face aux vagues qui gagnent la plage, faire la course avec la mer mais n'avoir plus personne à qui raconter son exploit. Les brise-lames étaient toujours là, avait toujours été là depuis son enfance, mangé par le vent et le sel, mais là, dans le noir, sentinelle indifférente. Il se souvient d'un soir où, blessé de leur indifférence, il les avait attaqués de ses pieds, de ses poings, ivres de rage, les yeux fiévreux, mangés de sel, s'était brisé un doigt de pied, écorché les mains, s'était senti minable, ridicule, boxé de vieux troncs de bois, tu parles. Il brunait, l'horizon était brouillé, il était rentré à pied. Mais en bas de chez lui, face aux fenêtres éteintes, il était reparti sur la plage, humide, boiteux. Combien de fois avait-il parcouru le sillon cette nuit-là, jusqu'à l'épuisement? Au petit matin, sur le port, la douleur engourdie de froid et de fatigue, saoulée par l'iode et par la nuit, par la marche et la fatigue, le cœur malmené par l'odeur de kérosène des ferries en partance pour Guernsey, il s'était hissé en haut des remparts pour voir le soleil se lever du côté du sillon. Des siècles qu'il n'avait pas regardé le soleil se lever. Mais de ce matin-là, il se souvenait surtout de la chaleur sur sa nuque quand il tourna le dos au soleil pour rentrer chez lui. Le soleil sur la nuque. Les yeux fermés, les pieds dans l'eau salée, le Breton se laisse emporter bien loin, ses doigts de pied jouant avec le gros sel comme naguère les grains de sable. Une grande peine monte au fond de lui, une très grande peine. Qu'il faut ravaler quand le curé revient avec une serviette éponge et qu'il tend au pèlerin. Alors soudain, le Breton dit « Avec ma femme, au début de notre mariage, on se faisait des massages de pieds, de longs massages de pieds. Je lui massais les pieds parce qu'elle était vendeuse, debout, toute la journée, vous comprenez? Alors de la masser, ça l'a soulagée. Et elle me massait les pieds, comme ça, sans raison. C'était à nous, c'était nos soirs ensemble, on se massait les pieds. » Il y a un long silence, puis il ajoute « Un jour, on a arrêté, je ne sais pas quand, je ne sais même pas pourquoi, mais un jour, on a arrêté de se masser les pieds. Elle était toujours aussi fatiguée de ses journées et je ne lui massais plus jamais les pieds. Je ne me souviens même pas la dernière fois. » Le curé se taisait. « Je suis désolée de vous raconter ces choses, à vous surtout. Ça m'est revenu, c'est bizarre comme ça m'est revenu. » Ça lui était revenu et soudain, rien n'avait plus d'importance que ce souvenir-là. Le curé avait allumé la lumière, il souriait, s'apprêtait à quitter la chambre. « Pardon, mon père, mais vous pourriez me laisser le livre d'or ce soir? Je vous le rendrai demain matin avant de partir. » L'autre répondit « Il n'y en a pas. » Ou plutôt, c'est dans ma tête le livre d'or. Parce qu'il se souvenait de tous les pèlerins passés par son refuge. Il se rassit sur le lit voisin, prit sa tête dans ses mains, puis se pencha vers le Breton, les mains croisées sur ses genoux, puis il dit « Je me souviens de votre femme, une très belle femme. Elle est passée au printemps dernier, n'est-ce pas ?» Le Breton dit « Oui, oui, il y a un an, un peu plus d'un an, en avril. C'était en avril, oui, il avait plu, comme aujourd'hui. Mais le refuge était plein ce soir-là, plein d'éclopés parce qu'on avait eu plusieurs jours de pluie. Elle était fatiguée mais heureuse. Elle souffrait un peu de la cheville, rien de grave, mais je m'en suis occupée. C'est là qu'elle m'a raconté la même histoire que vous. Comment vous lui massiez les pieds, son travail de vendeuse, même le samedi, la fatigue, et vous qui lui massez les pieds. » Le curé s'était levé à nouveau dans l'embrasure de la porte. Le Breton n'avait pas envie de le laisser partir, mais retenir les gens, il ne savait pas faire. Pourtant, pardon de vous demander ça, mais elle avait dit autre chose ? Le curé hésitait, cherchait autre chose. Le Breton murmura, même un mot, juste un mot qu'elle aurait dit. Le visage du curé s'illumina. Oui, si. Au moment où elle me parlait de vous, je devinais qu'un jour vous viendriez à votre tour sur ce chemin dans mon refuge. Elle avait souri et dit, j'espère. Il était déjà tard, le curé passa saluer les autres pèlerins dans la grande salle, leur souhaita bonne nuit et bonne route. Quand Robert monta dans la chambre qu'il partageait avec le Breton, il le trouva assis sur son lit. « Alors, son remède miracle ?» L'autre sourit. « Miracle, tu l'as dit. » Robert répéta. « N'empêche, tu devrais pas forcer demain. Tu sais comme c'est, ces petites bêtes, faut faire gaffe. Et puis, miracle ou pas, je sais pas trop si on peut faire confiance au curé. Ah, celui-là, on peut. » Watching the video that you sent me, the one where you're showering with wet hair dripping, you know that I'm obsessed with your body, but it's the way you smile does it for me. It's so sweet knowing that you love me, though we don't need to say to each other sweet. Knowing that I love you.
Le jardin suspendu d'Auvillard. Clotilde soupira. Deux jours auparavant déjà, Lauzerte nous avait fait le coup. En fin d'étape, après avoir cavalé sur les chemins toute la journée, il avait fallu grimper une sacrée côte pour gagner la ville. Et voilà qu'au loin, dans le haut, Auvillard remettait ça. Défier la fin de journée du pèlerin. Enfin, pour le moment, c'était encore plat. Le chemin suivait une petite route de campagne. Pas de raison de se plaindre. D'ailleurs, se plaindre, c'était pour le principe, hein. Parce que, après 3 semaines de marche, on ne souffrait plus tellement de l'effort. Tu te souviens des premiers jours de l'Aubrac ? À peine 15 kilomètres par étape ? Bien sûr, je me souviens. Je me souviens aussi de cette sensation d'être cassé en 1000 morceaux. À présent, le corps s'était accoutumé, assoupli, et à part des petites raideurs au réveil, ne faisait plus défaut. Depuis quelques jours, une semaine peut-être, Clotilde avait l'impression de profiter pleinement des merveilles du chemin. La vallée du Célé, le chemin perdu dans les champs de maïs par éclos, le maquis et ses odeurs de buis, une odeur ancienne, les pierres blanches et râpeuses, les plumes, toutes les plumes, l'odeur de bois chaud des forêts de mélèzes, les petits tas de pierres. À certains croisements, en haut de quelques côtes, ou simplement sur le bord du chemin, sans raison, les pèlerins entassaient des petites pierres. Chacun, en passant, déposait un caillou ramassé alentour. Un caillou plus un caillou et un autre, ces monticules biscornus indiquaient le chemin comme les lutins des contes pour enfants. Les jours où l'on ne croisait pas grand monde, ils étaient de bonne compagnie. Pour Clotilde, le signe que des inconnus qu'elle ne rencontrerait jamais avaient d'une certaine façon pensé à elle. Alors elle faisait une halte et à son tour ramassait une pierre qu'elle posait délicatement sur l'édifice. Parfois, il y avait des petits mots, laissés là à l'attention des copains qui arrivaient derrière. Ce matin, à la sortie de Moissac, Enrique et Sofia avaient laissé un message pour leur amie Flora, qui avait un jour de retard depuis l'Aveyron. Clotilde avait aidé Sofia à accrocher le papier à une vieille ficelle. Il volait au vent sur le petit tas de pierres. Après, eh bien, il fallait juste espérer qu'il ne pleuve pas. Clotilde avait fait part de son inquiétude à Enrique, qui avait dit « Impossible, il ne peut pas pleuvoir, c'est mon anniversaire !» Enrique ne doutait de rien. Clotilde les avait laissés filer. Ils avaient choisi de passer par la colline et elle préférait rester le long du canal. À ce soir, à Auvillard. Elle avait marché seule sur le chemin de halage qui bordait le canal. Un vrai bonheur. Le chemin beau comme un jour de fête, les vieux platanes alignés comme au bal des cavaliers. Parfois une péniche et des hérons qui passaient d'une rive à l'autre, sans même un battement d'ailes. Il ne peut pas pleuvoir, c'est mon anniversaire. Clotilde pensait à Enrique, si solide et solaire, comme elle aurait aimé avoir sa force de conviction. Il ne peut pas pleuvoir, c'est mon anniversaire. Quel âge avait-il, cet escorte griffe ? On ne savait pas grand-chose de lui, qu'il était brésilien, de Rio de Janeiro, que Sofia n'était pas sa petite amie, ni Flora d'ailleurs, qu'il jouait de la guitare à merveille, chantait aussi. Et puis, finalement, personne n'avait cherché à en savoir plus. Il était tellement présent à chaque instant qu'on ne pouvait pas l'imaginer ailleurs. Son anniversaire. Quel jour était-on déjà ? Le chemin de halage continuait sur 15 kilomètres, 5 heures de marche pour Clotilde, qui marchait à son rythme, le rythme des bons jours. Il faut avouer que cette étape le long du canal présentait un avantage non négligeable. En plus d'être prodigue en beauté, elle était absolument plate. Sur l'autre rive passaient des trains dont la vitesse la fascina. Pas des TGV pourtant, juste des tortillards sur leur lancée, mais tout de même. Désormais, Clotilde vivait à 3 kilomètres à l'heure, respirait à ce rythme-là, voyait le monde à sa vitesse de marche, découvrait toutes ces choses minuscules qui échappaient aux passagers du train. Par exemple, ces ravissantes maisons d'éclusiers, aux volets vert bleu, le saule pleureur dans le jardin et l'aéron du voisinage. Clotilde s'imagina dans une de ces maisons, la barrière en bois, les pieds dans l'eau, les platanes qui veillaient, doux et rassurants, s'attarda un moment, défit son sac à dos et s'étira, le soleil perçait. Sur l'autre rive, la maison de l'écluse, dite du Petit Besy, lui faisait de l'œil, la narguait. Il n'y avait pas de pont, elle ne pouvait donc s'en approcher davantage. Se remit en route, rêvassait. Tout vendre, la grande propriété du Nord et l'appartement de Paris, donner de l'argent aux enfants et acheter cette petite maison au bord du canal, y ouvrir un gîte pour pèlerins, mais un gîte chic, avec des lits moelleux, des oreillers en plumes. Tu ne peux pas t'en empêcher, hein, de faire la dame, même quand tu rêves d'un gîte pour pèlerins. Et alors, 22 jours que je marche sur ce chemin et que je dors dans des refuges, je suis bien placé pour savoir que c'est réconfortant, des oreillers en plumes. Clotilde souriait, imaginait la petite maison, des rideaux en chanvre aux fenêtres, presque pas de meubles, des gros tapis l'hiver, et elle. Ça semblait idiot, mais c'était bien la première fois qu'elle s'imaginait changer de vie. La toute première fois. Jamais encore elle ne s'était autorisée ses rêvasseries, même pour rire, même quand les copines ne s'en privaient pas autour d'elle. Véronique, qui parlait de s'installer dans sa propriété normande, près de ses chevaux. Anne, qui projetait de vivre à la Trinité-sur-Mer, une partie de l'année quand les enfants seraient grands. Et toi, Clotilde ? Les enfants de Clotilde étaient grands depuis longtemps, mais jamais elle n'avait imaginé qu'autre chose était possible. Pourtant, la vie lui avait donné des coups, des bosses, et même un sacré avertissement. Un avertissement, je ne l'avais jamais pris ainsi. Pourtant, tu crois que c'était un avertissement ? Une injonction à rêver ? Je ne sais pas, je n'en sais rien. Tu poses de ces questions. Ce qui est terrible quand on marche, c'est qu'on cogite, on pense. Marat avait une théorie, les pieds tapent sur la terre, le sang remonte dans le cœur, c'est l'énergie de la terre qui gagne, l'esprit, tout est bouleversé. Ça te faisait peur de rêver. J'avais déjà réalisé mes rêves de 20 ans, et maintenant, je marche. Clotilde harnacha son sac et hâta le pas. Elle avait une idée en tête, tomber du haut des platanes et ne voulait pas arriver trop tard à l'étape. L'auberge municipale d'Auvillard sentait bon la pierre et le frais. La grande cuisine donnait sur un jardin en terrasse. Au-dessus de la Garonne, on voyait au loin la campagne et le fleuve. Une grande table en bois posée à l'ombre du tilleul. Marat s'accouda contre le mur, cet endroit était magique, regardait la Garonne, cette impression d'être en suspension, un jardin suspendu. Ôta ses chaussures, ses pieds nus dans l'herbe, un jardin suspendu comme à Babylone. Sophia et Enrique étaient partis faire des emplettes en ville. Quelques pèlerins papotaient dans le jardin, d'autres cassaient la croûte. Marat était assise dans l'herbe, se massait les pieds, dévisageait ce jardin qui semblait tenir en hauteur par miracle. Bientôt Clotilde arriva, proposa à Marat de partager une machine à laver. Grand moment de communion entre pèlerins, le partage de la machine à laver. Et dit, c'est l'anniversaire d'Enrique, il faudrait faire quelque chose, qu'en penses-tu ? Marat dit, je suis désolé, les fêtes, les anniversaires, je suis nul, je ne sais pas faire. Mais Clotilde s'affairait déjà et Marat comprit que le « qu'en penses-tu » était purement rhétorique et par conséquent ses réticences inutiles. « Mais moi je sais faire, » dit Clotilde, « c'est même ce que je sais faire de mieux. Enfile un tricot, on va en ville. » Clotilde avait une idée derrière la tête, quelque chose de facile, quelque chose dans ses cordes, qui ferait plaisir à toute la troupe, un dîner pour Enrique. Si on avait pu trouver une guitare, ce serait formidable, mais sinon, on ferait sans. Elle dévalisa l'épicerie pendant que Marat cherchait Sophia dans le bourg pour lui expliquer la surprise. Il faudrait qu'elle occupe Enrique, loin du refuge, jusqu'à, disons, 19 heures, et alors tout serait prêt, et tout le monde sera arrivé. Marat retrouva Clotilde, les bras chargés de sacs et de victuailles. Elle connaissait Clotilde, mais elle ne pouvait s'empêcher d'être surprise de voir à quel point la perspective de cuisiner pour un régiment mettait son amie en joie. Marat ne s'y ferait jamais. « Ok, je vais t'aider à porter toutes ces choses, même à cuisiner si tu as besoin d'une petite main. Mais Clotilde, là, maintenant, là, tout de suite, j'ai plutôt envie d'un verre en terrasse. Tu la vois la jolie terrasse au soleil sur la place qui nous tend les bras ? Juste un quart d'heure. Et après, on s'y met. »
It's been a long day, baby. Things ain't been going my way, you know I need you here to clear my mind all the time. And baby, the way you move me, it's crazy. It's like you see right through me and make it easier to please me. You don't even have to try. Oh, because you are the best thing. You are the best thing. You are the best thing. That you believe me when I say this love will never fade away. Oh, because you are the best thing. You are the best thing. You are the best thing. Ever. Like a spring to walk on out the door. Hearts are strong and our hearts are kind. Let me tell you just exactly what is on my mind. You are the best thing. You are the best thing. You are.
Il faisait soleil sur le petit bourg pierreux en toit rose. Il faisait bon. Marat tira une table dans un rayon de lumière et elle a commandé au bar un perrier citron et un verre de vin du pays. Le bar était plongé dans la pénombre. Marat ne voyait pas clair, mais reconnut la grande silhouette accoudée au comptoir. 7 lieues. L'autre se retourna, maladroit, emprunté, surpris, pas à l'aise. « Marat, Bonjour, Marat. Qu'est-ce que tu fais là? Je pensais que tu étais loin devant. Je me suis blessé, au tendon, je crois. Je repars demain. On est dehors en terrasse. Tu viens avec nous?
Avec qui?
Juste Clotilde et moi.
Cet lieu, pas enchanté d'avoir à faire des sociabilités, mais s'il avait fallu le porter, Marat l'aurait porté. Tout était bon pour retarder le grand chantier culinaire prévu par Clotilde, même une conversation de chienne faïence avec le gars le plus taiseux du chemin.
Je t'attends dehors, tu nous apportes nos verres?
D'accord, Marat. Cet lieu n'avait pas dit grand-chose, fidèle à lui-même, à peine répondu aux questions polies de Clotilde. Tout juste apprit-on qu'il avait une mauvaise tendinite au genou et au tendon de la cheville droite, depuis un bon moment d'ailleurs, depuis Conque, peut-être ne se souvenait plus très bien, avait forcé certains jours. Il avait marché 15 heures sans s'arrêter pour faire 15 kilomètres, pas un de plus, une torture, jusqu'à Auvillard. La Garonne, le pont qui lui avait paru si long à franchir, le village si haut, s'était arrêté là il y a 3 jours parce qu'il n'avait vraiment pas le choix. Pas le choix. Marat demanda « Mais pourquoi tu es si pressé aussi à marcher si vite? C'est normal que tu te blesses, à moins que tu sois super entraîné. »
Cet lieu, le nez dans sa tasse de café, marmonna « Pas entraîné, non pas entraîné. » Il baissa la tête, la releva soudain, regardait au loin, roula une cigarette pour lui, une autre pour Marat, puis une dernière pour Clotilde, qui rougit « Non merci, je ne fume pas, je n'ai jamais fumé. »
Cet lieu haussa les épaules et rangea la cigarette dans sa poche de chemise. Le tabac sentait bon le miel et le cuir, comme le Radford, le tabac préféré du père de Marat, mais lui fumait la pipe. Le froid tombait déjà, les filles se décidèrent à rentrer au refuge. Clotilde dit « Cet lieu, ce soir, nous organisons un petit dîner surprise pour Enrique, dont c'est l'anniversaire. Vous êtes le bienvenu. »
Cet lieu baissa les yeux, ne dit même pas non, tant il était avare de ses mots, et disparut dans le bar d'où il était venu. La cuisine sentait le fromage cuit. Cet lieu dressait la table dans le jardin en silence. Clotilde essorait de la salade verte dans un gros torchon. Il n'y a pas d'essoreuse à salade. Cet lieu s'appliquait, maladroit, bousculait les assiettes, l'eau débordait de la carafe, éclaboussa le bois de la table. Clotilde faisait celle qui ne remarquait rien, coupait du pain, battait la vinaigrette. Cet lieu se racla la gorge. Bon! Mit les mains dans ses poches, se balançait d'un pied sur l'autre comme un ours brun. « Je vais faire un tour, hein ?» Clotilde posa la vinaigrette sur la table, lui sourit. « Faites, faites, cet lieu. Si vous croisez Enrique et Sofia, nous passons à table dans 20 minutes. Je compte sur vous. » À table ce soir-là, dans le jardin suspendu d'Auvillard, il y avait Clotilde, entourée de Marat et d'Enrique, qui n'arrêtait pas de les serrer dans ses bras, le Breton, Sofia, une bande de retraités qui marchaient jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port. Leur visage n'était pas étranger à Marat, mais impossible de dire où elle les avait déjà croisés. Et puis, 7 lieues en bout de table, qui se chargeaient de remplir les verres de tout ce petit monde. Une tâche qui lui permettait de participer tout en restant silencieux. À chaque verre, Enrique portait un nouveau toast au Camino, à Los Amigos, à Santiago de la Libertad, à Rio, à Los Peregrinos, etc. Il avait les larmes aux yeux et Sofia dit « C'est la saudade, c'est normal, il a la saudade. Il était le roi de la fête et ce rôle lui allait à la perfection. » Sofia dit « À Rio aussi, c'est le roi de la samba, hein Enrique ?» Et Enrique s'exclama « Ah, la samba, ne parle pas de la samba. Ici, en Europe, on ne l'entend pas, on n'en trouve pas, et ça me manque, ça me manque. » Marat demanda « Tu es prof de samba ?»« Non, non, professeur, non, mais je fais ça, la samba, dans une école de danse, tu sais. »
Oh oui, elle savait. Les écoles de danse du carnaval de Rio, les plumes, les chars, les paillettes. Autour de la table, tout le monde avait des étoiles dans les yeux, balancées par poignées par un Enrique magicien qui mimait le public émerveillé, racontait la danse, la fête, tout en brésilien. On ne comprenait pas grand-chose, mais on rêvait plus encore. Il se mit à chanter, taper dans les mains, accompagné par Sofia qui se dandinait sur sa chaise. Puis chacun reprenait le tempo sur le bois de la table. Même cette lieu battait le rythme, timidement. René et Joe, du groupe de retraités, étaient allés à Rio pour le carnaval. Ils racontèrent la foule, la magie et l'énergie des nuits, et la beauté, les filles magnifiques too much, mais tellement belles. Mara traduisait pour les Brésiliens, et alors Sofia dit « Mais la plus belle au carnaval, c'est Enrique ». La stupeur ne dura qu'une seconde, le temps qu'Enrique avale sa gorgée de vin et ravi confirme « la plus belle fille du carnaval ». Parce qu'Enrique, avec son corps d'athlète sculpté à la capoeira et sa voix de stentor, en fait, il aurait préféré être une fille. Alors des fois, à l'école de samba et au carnaval, il était la plus belle, et c'était le bonheur. Clotilde vida son verre d'une traite. Mara scruta les visages des convives, un à un. Parmi les copains de René et Joe, il y en avait qui n'avaient pas compris, tant mieux. Ils répétaient « Ah, le Brésil, Rio, ça fait rêver, c'est sûr, faudra organiser un séjour là-bas, hein, Jeannot ?» Jeannot faisait un peu la gueule, mais rien de grave, il était juste gêné. Pour le reste, le Breton souriait en grand, ne disait rien. Clotilde, toute rouge, répéta quand même trois fois « Ah bah ça alors !» Et cet lieu impassible remplissait les verres. Voilà, on venait d'apprendre qu'Enrique, le bel Enrique, était travesti à 16 heures et que Dieu, sur ce coup-là, s'était un petit peu emmêlé les pinceaux parce que le carioca à l'intérieur, il avait un cœur de bidinette. Mais il faisait avec. Il racontait ses robes à strass, les beaux mecs de son cours de capoeira et le grand bonheur du carnaval comme s'il avait parlé de l'étape du lendemain. Mara comprit alors pourquoi on savait si peu de choses sur Enrique. Contrairement aux Bretons, il n'était pas discret ni solitaire, mais finalement, après 3 semaines de marche, que connaissait-on de lui ? Qu'il jouait de la guitare, comme Django ou Press ? Qu'il avait pris 6 mois sabbatiques et convaincu Sofia et Flora de le suivre en Europe pour faire le chemin ? Et puis, c'était tout. Parce que l'essentiel, la faille, les amours, les rêves, pour les dire, fallait en passer par là. C'est moi la plus belle fille du carnaval. Clotilde annonçait les fromages. Nous sommes encore en France pour quelques jours. Alors les fromages, profitons-en. Enrique et Sofia applaudissaient. Tout avait l'air simple, mais l'était-ce ? Non. Sinon, Enrique aurait raconté avant ses robes de carnaval. Mais ce soir, c'était son anniversaire. Il avait la saudade, mais il était heureux. Et tout ça, c'était grâce à Clotilde. La soirée suivait son cours, fleurait bon le crépuscule et l'eau du fleuve. À l'est, côté bourg, il faisait déjà sombre. Le Breton et les retraités comparaient les avantages de la pêche en rivière et la pêche aux coquillages. On demanda des nouvelles de Robert. Le Breton dit qu'il avait pris un jour de repos à Moissac. Sofia racontait aussi qu'elle avait reçu un message de Flora, qui avait un jour de retard sur eux, pas plus, et que tout allait bien. Mara regardait Clotilde qui virevoltait entre le four, la table, l'évier. Il n'y avait pas assez d'assiettes. Elle les lavait au fur et à mesure pour le dessert. Clotilde, c'était la femme des petits miracles, capable d'inventer un festin pour 10 personnes avec des petits riens, de se donner un air de maîtresse de maison dans un refuge de pèlerins, de sembler toute pomponnée après 5 minutes dans la salle de bain commune. Bientôt, les conversations s'éteignirent, l'une après l'autre, le soleil se couchait, là, en face, à hauteur du jardin suspendu, une beauté. Mara et Enrique s'étaient levés comme pour s'en approcher. Enrique dit « C'est un beau cadeau, ce jardin, ce dîner, ce soleil, hein, Mara ? Tu diras à Clotilde ?» Il lui ébouriffa les cheveux et l'attira contre lui. Tu as quel âge, Enrique ? 33 ans. L'âge du Christ, fais gaffe, ça ne lui a pas porté bonheur. Quelle idiote à faire des blagues idiotes parce qu'elle est sur le point d'être émue. Enrique éclata de rire. T'inquiète pas, Mara, lui et moi, on n'est pas pareil. Non mais tu le vois, lui, danser la samba en robe à paillettes. T'es bête, Mara, Enrique, à table. Clotilde allumait la dernière bougie saufreteuse posée à côté du gâteau au chocolat que le four avait consenti à cuire correctement. « Viens, Mara, je veux mon cadeau d'anniversaire. » La nuit s'était invitée à la table de fête. Clotilde recevait moult compliments. Comme le jardin, le temps était suspendu. Mara sentait le sommeil, lui fermait les paupières, traduisait ici et là ce que racontait Enrique. Cet lieu faisait déjà la plonge. Jo, René et leurs amis prenaient congé. On parlait de l'étape du lendemain qui nous amènerait jusqu'à Lectoure. Une longue étape dans les collines du Gers. Jo, qui avait été instite pendant 40 ans, dit « Lectoure, n'est-ce pas la ville de D'Artagnan ?» Quelqu'un approuva. Si, si, il était gascon. L'air amusé, ses grandes mains posées sur la table, le Breton se balançait sur sa chaise, un œil sur les uns et les autres. « Tu as l'air bien fatigué, Mara. » Mara fut surprise. Le Breton était un gars bourru, pas du genre à chanter des berceuses. « Un peu, oui. Et vous, vous êtes bien silencieux dans le brouhaha. » Il fit une sorte de moue, glissa ses yeux malicieux. « Vous êtes toujours silencieux, même dans les fêtes. À quoi vous pensez ? Et toi, Mara, à quoi penses-tu derrière tes yeux endormis ? À D'Artagnan, au carnaval de Rio. Alors, et vous ?» Le Breton dit à voix basse, aux jours de pluie, aux blessures des jours de pluie. L'auberge était silencieuse. Presque tout le monde était couché à présent. Seuls Mara et Clotilde veillaient dans le jardin, emmitouflés dans des pulls verts, à siroter une tisane au cou d'herbe. Clotilde tenait le bol chaud à pleine main pour se réchauffer. Elle se souvint de sa première rencontre avec Mara des semaines auparavant. À la belle étoile, comme ce soir, emmitouflés dans leurs pulls, à parler de leur chat bizarre. Ensemble, elles se retrouvaient dans de drôles de situations. Clotilde s'y était habituée. Elle pensait à Enrique, à fréquenter Mara et les autres. Elle ne se formalisait plus de rien, s'amusait, se moquait du candidaton. Mara avait 20 ans de moins qu'elle, mais c'était devenu son amie. Elles étaient sur le même plan, égales, malgré la différence de vie, d'âge, de tout. Bien sûr, Clotilde ne pouvait s'empêcher de couver Mara. Elle restait une maman. Et Mara avait l'âge de sa fille aînée. Et puis, il y avait autre chose, une petite chose qu'on lui avait confiée en cours de route et qu'elle transporterait jusqu'au bout du chemin et qui faisait qu'elle ne voulait pas s'éloigner de Mara. Mara et Clotilde gagnèrent leur lit sur la pointe des pieds. Le vent s'était levé et faisait la conversation à l'arbre. C'était leur heure maintenant.
Drive my ships to New Land.
Eh bien, merci Catherine, merci Hervé. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour écouter la suite du Vestibule des causes perdues et retrouver tous ces personnages qui marchent. À la semaine prochaine !